Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 mars 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Morgane et bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, première comparution de Blé Goudé à la CPI. L'ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens a clamé son innocence.
Je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi.
L'Afrique de l'Ouest se mobilise contre la fièvre Ebola qui s'est déclarée en Guinée. République centrafricaine, la MISCA accuse les anti-balaka d'être à l'origine des dernières violences. Nous aurons la réaction des anti-balaka.
Mais ce sont la MISCA, les éléments de la MISCA plutôt, qui sont les ennemis jurés du peuple centrafricain.
La RDC en deuil suite au naufrage du lac Albert et tête à tête Barack Obama, pape François au Vatican, la première rencontre entre les deux leaders. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant le journal.
Justice internationale, Charles Blé Goudé a clamé son innocence à la Haye.
C'est une opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour. Je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi.
Accusé de crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, l'ex-leader des jeunes patriotes comparaissait pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé est un proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, lui aussi détenu à la CPI. Ils sont tous les deux poursuivis pour les exactions contre les civils durant la crise post-électorale de 2010-2011. Leurs partisans parlent de justice des vainqueurs et dénoncent les crimes commis par les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara. Écoutons Fadi Al-Abdallah, porte-parole de la CPI.
Le but de l'audience de première comparution est simplement de vérifier l'identité du suspect, de vérifier dans quelle langue il pourra suivre la procédure et également de vérifier qu'il a été notifié avec ses droits ainsi que des charges dont il fait l'objet. Par la suite, la juge avait établi la date du 18 août pour le début de l'audience de confirmation des charges. L'audience de confirmation des charges n'est pas un procès, c'est une étape préliminaire permettant au juge de vérifier si le procureur dispose d'éléments de preuve suffisants qui justifieraient qu'un procès doit avoir lieu. Sinon, l'affaire pourra être arrêtée à ce stade préliminaire. Le travail de la Cour en Côte d'Ivoire n'est pas terminé. Il y a des allégations de crimes commis dans les deux camps. Les enquêtes continuent et en fonction de ces éléments de preuve qui seraient réunis, que le procureur entend soumettre au juge de nouvelles demandes de mandat d'arrêt ou de citation à comparaître.
Fadi Al-Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale.
En Guinée, les équipes sanitaires nationales et étrangères intensifient leur lutte pour enrayer la propagation d'une épidémie de fièvre Ebola. Cette maladie, hautement contagieuse et le plus souvent mortelle, a déjà fait des dizaines de morts depuis janvier. Idriss Fall a joint l'infirmière Natoma Demba Dounou du comité d'alerte de Gekedou, un des coins les plus touchés par le virus Ebola en Guinée forestière.
69 cas, 50 décédés, 8 personnes sont en isolation à la DTS, à la Tripano. Ici, on est en train d'identifier tous ceux qui ont été en contact avec les corps ou les malades. Je prends les dispositions hygiéniques et les isoler.
Quelles sont les mesures que vous prenez pour vous-même?
Les mesures d'hygiène, il y a un projet MSF qui est là, qui est en train de prendre les dispositions par rapport à ça. Le MSF suit.
Et quelle est l'ambiance globale à Gekedou au niveau des populations?
L'ambiance à Gekedou, les gens ont peur. Il y a certains même qui fuient les quartiers pour aller dans d'autres quartiers.
Est-ce que l'information circule dans les radios communautaires?
Oui, l'information même ce matin, ils ont fait une table à Ronde, à la radio locale de Sandia Pembecho. Chaque jour, l'information passe à la radio. Et encore, ils ont organisé des équipes de sensibilisation qui sont sur le terrain. Dans les marchés, ils sont en train de sensibiliser les gens.
Natoma Demba Dounou, infirmière du comité d'alerte de Gekedou en Guinée forestière.
En RCA, la société civile demande aux forces internationales de recadrer leur mission. Pour les responsables de la société civile centrafricaine, la MISCA et la force Sangaris doivent respecter les résolutions 2127 et 2134 des Nations Unies, une position exprimée face au regain de violence ces derniers jours à Bangui. Le point avec Idriss Fall.
Un calme précaire règne depuis hier à Bangui après des violences qui ont fait une vingtaine de morts ces derniers jours. Les responsables de la société civile ont tenu ce jeudi une conférence de presse à Bangui. C'est pour tirer la sonnette d'alarme selon Gervais Lakoso, coordinateur du groupe de travail qui estime que la déclaration de guerre faite par la MISCA aux anti-Balaka est une erreur grave.
Le général Moukoko s'est gravement trompé. Dire qu'il déclare la guerre aux anti-Balaka, c'est une erreur monumentale. Parce que c'est marqué nulle part dans ses mandats qu'il devait faire la guerre aux anti-Balaka, aux Séléka, ni à qui que ce soit en République centrafricaine.
Elle se propose une médiation entre les belligérants pour le retour de la paix dans le pays. Par ailleurs, au terme de sa mission de 4 jours à Bangui, Vincent Mavungu Buyu, président du Parlement de la CEMAC, a estimé que la crise centrafricaine ne peut être réglée que par les centrafricains eux-mêmes.
3 jours de deuil en RDC pour le naufrage d'un bateau surchargé de réfugiés samedi sur le lac Albert en provenance de l'Ouganda. 251 personnes ont péri, dont au moins 57 enfants et plusieurs femmes. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. Moins de 50 personnes ont été secourues. Nathalie Barge a demandé à Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, pourquoi le rapatriement volontaire de ces réfugiés n'a pas été effectué par le HCR en coordination avec les autorités des deux pays.
Ici, nous avons affaire à une sorte d'initiative pirate qui n'a tenu compte ni de l'Ouganda, ni de la RDC et encore moins du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avons lancé même un appel à ceux qui sont dans les mêmes conditions. Il y en a encore 500 dans ce camp d'où sont venus les malheureux qui sont morts, que nous ne pouvons pas les encourager à prendre des initiatives individuelles s'agissant d'un retour qui s'opère entre deux pays.
Oui, mais alors justement, comment cela se fait-il finalement qu'ils soient obligés de faire appel à des passeurs privés plus ou moins illégaux?
Il s'est passé des choses, probablement, qui ne leur ont pas plu en Ouganda. Nous attendons les résultats de l'enquête. Nous allons commencer à en parler avec nos collègues ougandais pour savoir exactement et ce qui s'est passé en Ouganda pour les pousser à sortir aussi massivement sans les précautions d'usage et ce qui s'est passé sur ce bateau pour engager la responsabilité de l'armateur.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Concernant l'avion de Malaysia Airlines disparu le 8 mars, on ne sait toujours pas si les débris repérés en mer proviennent de cet avion. Des images satellites thaïlandaises ont repéré environ 300 objets flottants mesurant jusqu'à 15 mètres dans l'océan Indien. Hier déjà, les experts français faisaient état de plus de 122 débris, mais les recherches sont entravées par le mauvais temps.
Accord de paix historique aux Philippines, le plus grand groupe rebelle musulman accepte de déposer les armes en échange d'une plus grande autonomie de Mindanao, région à majorité musulmane dans le sud du pays. L'accord vise à mettre fin à des décennies d'affrontements entre le gouvernement et le Front de libération islamique Moro, violences qui ont fait plus de 120 000 morts. Pour autant, la paix n'est pas rétablie. Un autre groupe rebelle, les combattants islamistes pour la liberté du Bangsa Moro, promettent de continuer de se battre. Ils exigent l'indépendance totale.
Ukraine, le Fonds monétaire international, s'est engagé à prêter jusqu'à 18 milliards de dollars à Kiev, qui devra en échange adopter de difficiles réformes économiques. À cette somme devraient s'ajouter des contributions de la communauté internationale pour atteindre un total de 27 milliards de dollars pour les 2 prochaines années. Selon le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, son pays est au bord de la faillite économique et financière.
Première rencontre entre le président Obama et le pape François aujourd'hui au Vatican. Le chef de l'exécutif américain s'est dit être un grand admirateur du souverain pontife. Les précisions de Michel Joseph.
C'est dans la bibliothèque papale que le président Obama et le pape François se sont entretenus pendant une heure. S'exprimant en espagnol, sa langue natale, le pape s'est dit reconnaissant de la visite du leader américain. Le président Obama a remis au chef de l'Église catholique un panier de graines de légumes et fruits cultivés dans les jardins de la Maison Blanche. Il a reçu du pape le livret d'un document papal intitulé « La joie de l'Évangile ». La présidence américaine a fait savoir que le chef de l'exécutif américain a été inspiré par la première année de pontificat du pape François, par la manière dont il a motivé les gens autour de lui et dans le monde, par son message d'inclusion et d'égalité. La rencontre était une occasion pour M. Obama de réparer les relations avec le Vatican, qui ont été mises à mal des divergences, notamment l'assurance maladie qui oblige les institutions catholiques à payer pour la couverture de soins contraceptifs pour leurs employés. Les évêques et beaucoup de catholiques estiment que c'est une violation de leurs convictions religieuses.
Yali Chat est allé presque viral hier sur le net. Plus de 12 000 jeunes Africains ont rejoint sur Twitter Richard Stengel, sous-secrétaire d'État aux affaires publiques, pour discuter gouvernance et leadership. Rien que la semaine dernière, Yali Chat a produit plus de 39 000 tweets et créé un network de 7 400 personnes en une seule nuit sur Twitter. Yali Chat est une initiative clé du président Obama dans ses efforts pour mieux impliquer la future génération de jeunes entrepreneurs africains, éducateurs, militants et innovateurs. L'objectif de cet échange sur Twitter est de connecter les jeunes leaders africains aux ressources du gouvernement américain. La plupart des participants à cette discussion virtuelle sont du Nigeria, du Kenya, d'Afrique du Sud, d'Ouganda ou encore du Cameroun.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgan Guiriec et Timothée Donangmaï. Nous partons en République centrafricaine. La force africaine MISCA accuse ouvertement les anti-Balaka d'être à l'origine des dernières violences dans le pays, notamment dans la capitale. Des violences qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Bangui, s'est rendu à Boyrab, l'un des fiefs des anti-Balaka. Ces derniers accusent au contraire la MISCA. Reportage.
Ce jeudi après-midi, l'ambiance semblait redevenue normale au marché de Boyrab, situé au nord de la capitale centrafricaine. Ce quartier est réputé être le fief de la milice anti-Balaka. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Brice Emotion Namzio, le porte-parole principal des anti-Balaka. Il rejette toute responsabilité de son mouvement dans la flambée de violence de ces derniers jours et accuse plutôt des éléments burundais de la MISCA d'avoir tiré sur un homme qui serait mort par la suite, provoquant la colère des populations civiles.
La population était mécontente. Elle était obligée de sortir le lendemain, barricader la route, juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale leur mécontentement. Et chose grave, ces troupes burundaises étaient revenues encore le lendemain pour enlever cette barrière.
On le sait désormais, suite à ces incidents, le commandant de la force africaine, le général Mokoko, a déclaré la guerre aux miliciens anti-Balaka, considérés désormais comme des ennemis de la MISCA. Réaction de Brice Emotion Namzio.
Mais ce sont la MISCA, les éléments de la MISCA plutôt, qui sont les ennemis jurés du peuple centrafricain.
À l'hôpital communautaire, le grand centre hospitalier de Bangui, nous avons retrouvé certaines des victimes de ce week-end. Yaouté Junior, 19 ans, a été évacué de Boali à 90 km au nord de Bangui. Cet élève de la classe de 6e affirme avoir été pris pour cible lundi dernier par des éléments de la MISCA RDC. Il souffre de plusieurs fractures à la jambe et au bras droit.
Nous sommes arrivés à Moto à un checkpoint tenu par des éléments de la MISCA. Ils m'ont tiré dessus avec 6 coups qui m'ont fracturé la jambe et le bras.
Aristarque Penenzapa, 24 ans, a quant à lui eu une fracture au bras gauche. Il a été blessé à Damara, 75 km au nord de Bangui. C'est un anti-Balaka qui a reçu une balle lors du démantèlement d'une barrière illégale.
La MISCA Tchadienzo, la gare, la louti, c'est pika, mon mélandoumé.
Ce sont les éléments de la MISCA tchadienne. Ils se sont arrêtés au niveau de la barrière. Ils ont ouvert le feu sur moi. Il n'y avait aucun obstacle entre nous. Je suis tombé à terre.
Ces accusations vont sans doute rajouter à la tension déjà palpable entre les forces internationales et les milices centrafricaines. Bangui Bagasikoura pour la Voix de l'Amérique.
Cap maintenant sur l'est de la RDC, dans le Nord Kivu. Les hôpitaux et les centres de santé de Goma sont sans infirmiers depuis quelques jours. Ils ont débuté une grève pour exiger la régularisation de leur salaire. En attendant, l'accès aux soins est limité. Correspondance de Primo Pascal Rudaigua.
Après avoir épuisé toutes les formules de revendication de leur salaire, les infirmiers de Goma et des environs ont décidé depuis mardi d'abandonner les hôpitaux et les centres de santé. Quelques habitants déplorent cette décision.
Ce n'est pas normal. Les gens qui se sont engagés pour sauver la vie des êtres humains se mettent en grève. C'est sûr, ils réclament leurs droits et nous en sommes conscients. Mais ils doivent savoir que la priorité, c'est ces vies-là qu'ils sont en train de sauver.
Nous regrettons fort à propos de la grève des infirmiers, parce que les infirmiers sont là pour le service de malades. Vraiment, on ne sait pas comment on va prendre soin de ces malades. Il serait mieux que les infirmiers réclament leurs droits autrement que la grève.
Madame Françoise Etassimo-Arulinabo, syndicaliste de la zone de santé de Kiroche, dans le territoire de Masisi, dit que toutes les conséquences de la grève des infirmiers pèsera sur le gouvernement congolais qui ne veut pas trouver des solutions urgentes à leurs revendications.
On nous a d'abord calmé en 2008 qu'il fallait attendre. Les numéros matricules sont là et dans un mois la mécanisation est confirmée. Mais curieusement, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait.
Et qui sera responsable des conséquences de votre grève si les malades mouraient à l'hôpital?
C'est le gouvernement qui en serait responsable.
Le ministre national de la Santé, Félix Kabange Numbi, a réuni à Goma ses infirmiers pour tenter de les rassurer.
Aujourd'hui, qui sont en grève, en tant que ministre de la Santé, j'ai demandé aux infirmiers de reprendre le service. Parce que le gouvernement de la République, c'est un gouvernement responsable.
Ces infirmiers n'ont pas respecté le mot d'ordre du ministre. Ils attendent les conclusions de leur assemblée générale, explique Étienne Boulenda, président de l'intersyndicale des infirmiers au Nord Kivu.
Je ne vais pas vous dire que nous avons décidé de reprendre les activités. On ne peut les reprendre qu'après avoir consulté la base qui est en grève. Oui, la grève continue.
Ce qui est déplorable est que les enfants n'ont plus accès au vaccin et cela constitue un danger pour leur santé. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
La décision du général Abdel Fattah el-Sissi de se présenter à la prochaine présidentielle égyptienne a suscité des réactions mitigées au Caire et ailleurs en Égypte. Mais sa candidature annoncée met Washington dans une position délicate. Idrissa Seydoudia.
L'administration Obama doit concilier deux choses, son soutien à la démocratie égyptienne et les préoccupations sécuritaires de l'Arabie saoudite. La candidature de l'ex-général était certes un secret de Polichinelle, et il nous faut s'attendre, estiment les États-Unis, à aucun impact sur la suspension des livraisons d'armes suite à des préoccupations relatives aux droits humains. La porte-parole du département d'État, Jen Psaki.
But obviously, there's an ongoing review of our relationship. As you know, we put
comme vous le savez, nous avons suspendu un certain nombre de programmes. L'année dernière, il y a eu quelques assistances de l'assistance sécuritaire qui a été fournie parce que c'était dans l'intérêt de notre sécurité nationale. Mais je ne peux prédire quand une décision sera prise sur le reste. Le renversement du premier président démocratiquement élu d'Égypte et la situation qui en a suivi mettent Washington mal à l'aise, estime l'ambassadeur américain Adam Erelli. Le bon côté, ils gèrent la situation. Le mauvais côté, ils répriment beaucoup de dissidence, pas nécessairement la dissidence déloyale, mais toute forme de dissidence. Cela gêne réellement le président Obama et son administration. Mais cela n'inquiète pas outre mesure l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui s'opposent aux frères musulmans chassés du pouvoir par al-Sissi. En revanche, estime le professeur Hilary Mann, Leverett d'American University, ce sont les forces de sécurité qui risquent elles-mêmes de promouvoir le chaos. C'est la torture, les emprisonnements, la répression totale. Nous pourrions même voir l'exécution publique de leaders des frères musulmans. Ce serait quelque chose qui ne ferait que radicaliser les frères musulmans, tel qu'on l'avait vu lors des précédentes présidences en Égypte sous Nasser et Sadat, où vous aviez eu aussi les précurseurs d'Al-Qaïda. En Égypte même, les réactions sont mitigées.
C'est aujourd'hui la journée mondiale du théâtre. L'événement a été célébré au Sénégal avec pour thème « Les violences faites aux femmes ». À travers leurs pièces, les comédiens ont dénoncé les pires abus commis envers la Sénégalaise. De Dakar, le reportage de Diana Bassé-Douba.
Des pleurs de femmes battues, des disputes conjugales devant des enfants apeurés, des fins tragiques de couples. C'est ce que les comédiens sénégalais ont montré sur scène pour marquer la journée internationale du théâtre. Le thème des violences faites aux femmes, bien suivi par les acteurs qui ont laissé exploser leur colère face à ce phénomène qui est toujours d'actualité. Avec sa troupe dynamanaire, Badara Diouf a raconté l'histoire d'un homme sans vergogne qui profitait des biens de son épouse.
La femme, c'est elle qui a tous les moyens. Elle a investi et c'est elle qui a acheté la maison. C'est elle qui donne l'argent à son mari. Au lieu que son mari lui rende la monnaie, il bat la femme. En plus, en dehors de ça, il prend l'argent de la femme pour aller se balader dans les rues, courir les jupons, voilà, c'est ça. Nous, en tant qu'artistes, on s'est dit, nous, on va jouer de telle sorte que la violence faite aux femmes soit vraiment terminée définitivement.
L'histoire racontée par Mam Mortoun et sa troupe Gumsabop est d'autant plus triste. Ces acteurs narrent l'histoire d'une femme qui a succombé à ses blessures suite à une vive altercation avec son époux.
Donc c'est plusieurs couples. Donc, parce que vous avez l'État du Sénégal a instauré tout récemment les Badianougor qui vont vraiment parler avec ces femmes, ces couples, essayer de régler les problèmes à l'amiable pour éviter que ça dégénère. Donc nous sommes partis donc de cette idée-là pour créer donc deux couples. Un, vraiment, qui subit donc vraiment des tortures au niveau de la maison. L'autre aussi, presque c'est la même chose, mais qui a eu le courage d'aller voir cette Badianougor-là pour lui en faire part. Vraiment, pour nous, on est parti de ça pour essayer de régler cette situation-là. C'est cette dame qui va mourir. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait plus supporter donc, cette violence-là qu'elle subissait.
La violence faite aux femmes n'est pas juste physique, elle est aussi mentale. C'est ce que les étudiants du Centre des œuvres universitaires ont voulu montrer. Eux ont abordé l'excision des filles. Ibrahim Abba est un étudiant.
C'est une forme de violence faite aux femmes. Vous imaginez une femme frêle, comme on l'a dit dans le sketch, et puis à travers un couteau que l'on nomme sacré, et puis couper cette chose qui fait la femme femme. Donc on trouve que c'est un peu ignoble. Donc c'est dans ce sens qu'on a voulu, en tant qu'étudiant, en tant que membre d'une société, appartenant à une société bien donnée, donc sensibiliser les uns et les autres.
Éduquer, sensibiliser les populations, surtout en ce qui concerne les droits de la femme, une priorité pour le théâtre sénégalais. Yacine Félane Diouf est actrice au Théâtre National Daniel Sorano. Selon elle, le public doit suivre pour que les messages puissent passer correctement.
Nous sommes au courant de ce qui se passe à l'intérieur des ménages. Les femmes souffrent beaucoup. Et nous, notre rôle, c'est d'éduquer, de faire des sensibilisations afin que la situation change. Et nous devons s'y atteler afin que la paix règne dans les ménages. Notre rôle, c'est de jouer des pièces, les montrer pour changer les mentalités, changer l'éducation des gens.
Raconter les histoires, sensibiliser sur cela, les comédiens s'engagent à faire de la protection de la femme une priorité dans leurs pièces. Diana Bassé-Douba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Allez, on passe au sport. Open de tennis Sony à Miami en Floride. Serena Williams continue sa domination de Maria Sharapova.
Et oui, Morgan, la numéro 1 mondiale, s'est imposée en demi-finale aujourd'hui sur le score de 2-7 à 0, 6-4 et 6-3. Williams a remporté à ce jour 16 de ses 18 rencontres avec Sharapova. L'Américaine Morgan est chez elle, un peu chez elle, dans ce tournoi de Miami. En plus de l'avoir remporté à 6 reprises, elle ne vit qu'à environ une heure de route de là. Et l'autre demi-finale dame de l'Open Sony oppose ce soir la Chinoise Lina à la Slovaque Dominika Szybulková.
Coupe du monde des cadettes au Costa Rica, les quarts de finale se jouent ce soir.
Venezuela-Canada sera suivi de Ghana-Italie, puis Japon-Mexique et Nigeria-Espagne. L'Afrique a donc deux chances d'avancer. Avantage psychologique aux cadettes nigérianes, japonaises et vénézuéliennes qui ont fait le plein de points, 9 points en phase de groupe. Mais attention, les autres équipes voudront se venger.
Coupe du monde 2014, la Côte d'Ivoire a mis le paquet pour un bon rendement des éléphants au Brésil.
Et oui, Morgan, un communiqué signé du ministre ivoirien des Sports, Alain Le Boyon, garantit 50 millions de francs CFA à chacun des 23 joueurs qui seront retenus pour l'expédition brésilienne. La même enveloppe avait été remise à chaque éléphant pour le mondial allemand en 2006 et celui d'Afrique du Sud en 2010. Une précision de taille, Morgan, dans ce communiqué du ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, les 50 millions de francs CFA seront payés dès la publication de la liste des 23 joueurs de l'équipe nationale. C'est dire, Morgan, que ces éléphants ivoiriens débarqueront au Brésil la poche lourde et le cœur léger.
On aimerait bien être à leur place.
Tout à fait.
L'UEFA a voté aujourd'hui pour lancer une nouvelle compétition internationale.
Il s'agit de la Ligue des Nations qui démarrera en septembre 2018 et qui remplacera la plupart des matchs amicaux internationaux. Et elle servira aussi de qualification à l'Euro 2020. Elle pourrait être plus tard intégrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. C'est une décision très importante pour l'avenir du football au niveau des équipes nationales, a déclaré le président de l'UEFA, Michel Platini.
Après les sports, la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Alors Abou Diarra, et je sais très bien que Morgane t'aime bien la musique malienne. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Abou Diarra est un musicien malien, chanteur Ngoni Fola, originaire de la région Ouassoulou. Sa musique mélange les rythmes traditionnels du Mali et des influences contemporaines. On écoute ce soir Sabou.
Voilà donc Abou Diarra hein, qui puise aussi ses influences dans le blues, le jazz et même le rock.
Exactement, sa musique est aussi, bien sûr, ses morceaux, je veux dire, sont accompagnés des textes forts, Morgane, parlant du contraste entre les coutumes anciennes, la sagesse de l'empire mandingue, l'expérience de la vie, beaucoup beaucoup de choses, vraiment de la bonne musique.
Voilà, c'était Sabou Abou Diarra. Merci Roger.
Take care, Morgan.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Voilà, ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.